12h-13h, France Bleu Lorraine Midi.
Nous voici à la cour de Lunéville avec Stanislas depuis un petit moment.
C'est vrai qu'on a tendance à parler comme ça.
C'est quoi, c'est 1737, hein, par là, son arrivée à la cour de Lunéville. Et rapidement, alors lui qui n'était pas attendu et d'ailleurs plutôt redouté, va devenir un roi aimé, un roi philosophe.
Oui, alors on a vu hier qu'il avait accueilli pas mal de têtes pensantes, notamment des gens qui sentaient le roussi dans tous les sens du terme. Hein, Voltaire, dont le livre a été brûlé au pied du bûcher du chevalier de la Barre. Helvétius, qui a eu le culot d'imaginer que peut-être l'âme n'existait pas. Et pourtant, lui, il est extrêmement, je le disais hier, très catholique, hein, très pratiquant, et il essaie de faire une sorte de lien entre les très religieux et les pas très religieux. Alors, tout ce monde-là vit à la cour de Lunéville. On a vu que c'est une cour brillante, avec beaucoup de constructions. Alors, Stanislas, il est comme on l'est à l'époque quand on est un monarque. Il voyage beaucoup, hein, il se promène du côté de son château d'Inville, il vient de temps en temps sur Nancy, alors il dort pas à Nancy même, mais au château de la Malgrange. Il a à ses côtés la fameuse marquise de Boufflers, dont je vous reparlerai demain, puisqu'elle va se partager les faveurs du beau Saint-Lambert, le chevalier de Saint-Lambert, qui est un des hommes, un des poètes de la cour de Stanislas, avec Madame du Châtelet, hein, Émilie du Châtelet, qui vient régulièrement, elle est pas très loin, son château de famille, enfin celui de son mari, est à Ciré-sur-Blesse, c'est en Haute-Marne aujourd'hui, donc il n'y a pas hyper loin, et donc elle vient souvent à Lunéville. Alors ça veut dire aussi feu d'artifice le soir, on mange, on se fait plaisir, on écrit, on commente les cancans. La ville est très vivante. Lunéville est une ville riche, vivante. À l'époque, on construit encore beaucoup d'hôtels particuliers, même si la plupart le plus important de la ville a été construit au début du 17e siècle, sous le règne de Léopold, par Germain Boffrand, qui construit aussi d'autres châteaux. Alors par exemple, le château d'Arouet, hein, on est à l'époque où on est en plein fleurissement de ce château, qui appartient au prince de Beauvau, qui est resté en bon terme avec Stanislas, même si lui est plutôt fidèle, évidemment, au duc d'origine, hein, à François-Étienne, qui lui continue son histoire d'amour avec Marie-Thérèse d'Autriche. Il en a, je le rappelle, 16 enfants. En 1756, naît d'ailleurs la petite dernière, Antonia, qu'on va surnommer Marie-Antoinette, et qui deviendra reine de France, qui est donc la fille du dernier duc de Lorraine, et qui va épouser le petit-fils de Stanislas, qui est donc Louis XVI. D'ailleurs, Louis XVI et son frère, le comte de Provence, qui deviendra Louis XVIII beaucoup plus tard, ont en point commun avec Stanislas le fait de ne pas être rachitique. Hein, ils sont bien costauds. Ça, c'est pas bourbon. Vous voyez, l'appétit qu'ils ont, c'est un appétit très bourbon. Ça, ils tiennent ça de leur grand-père Louis XV et surtout de Louis XIV, qui bafferait vraiment pour le coup. Stanislas bafferait pas mal aussi, mais la famille des Bourbons, ils avaient tendance à pas trop garder. Vous voyez, alors que les Leczinski, ça tient au corps, quoi. Hein. Alors, il est aussi, je l'ai dit, très bâtisseur. Alors évidemment, on va arriver à cette période très importante qui est la construction de la place Stanislas. Rappelons qu'il a fait appel au tout début de son arrivée en Lorraine en 1737 à Emmanuel Héré pour bâtir un premier bâtiment qui lui servira de tombe, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. C'est déjà prévu, hein, qu'elle serve de tombe à Stanislas, puisqu'il peut pas être enterré avec les ducs de Lorraine légitimes, puisque c'est une tombe de famille, en fait. Donc, Stanislas a dans l'idée de bâtir une place. C'est la mode, hein, depuis quelques années. Alors, depuis un petit moment déjà à son époque, on peut dire que celui qui a commencé en France, c'est Henri IV. Louis XIV en a fait beaucoup, c'est à lui qu'on doit notamment la place des Victoires, à Paris, cette place ronde qui est située pas très loin de Notre-Dame, la place Vendôme, cette manie des places royales, c'est le fait de faire une place avec des façades et puis de mettre au centre une statue. Statue du roi, en l'occurrence. Alors, Stanislas voudrait bien faire la sienne. En plus, il a dans l'idée d'être un peu pratique, c'est-à-dire qu'il voudrait faire une sorte de centre administratif de Nancy, vous voyez, où on pourrait tout trouver. Donc, au départ, son idée, c'est de la construire sur la place du marché. Il se dit, après tout, c'est là qu'est la mairie, elle est encore debout à l'époque. Il y a ce qu'on appelle l'official, avec les fameuses oubliettes où on mettait les gens en attente d'être jugés pour sorcellerie. Moi, j'y pense à chaque fois que je passe sous le parking Charles III, c'était là qu'on les enfermait, les pauvres, avant d'aller les brûler du côté de Champignol. Enfin, bref. Alors là, les Nancéiens ne sont pas contents, ils disent non. Les Nancéiens disent non, donc on est loin du roi absolu. Hein. C'est trop cher, les commerçants ronchonnent, étonnant, on n'a pas l'habitude, etc. Donc, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et il regarde le plan de Nancy. Et à l'époque, rappelons que la ville est coupée en deux. Il y a deux villes à Nancy, ça a été longtemps son originalité. La vieille ville, puisque c'est la ville d'origine, et la ville neuve que Charles III avait bâtie une centaine d'années plus tôt, 150 ans plus tôt, en se disant, tiens, je vais augmenter la taille de ma ville. Et entre les deux, il y a la fin des remparts de la ville vieille, avec la porte Saint-Nicolas là où les ducs font leur fameuse joyeuse entrée, et une sorte de petite place, un placis plutôt, un terrain dégagé, quoi, avec des hôtels particuliers un peu chic sur les côtés, là où il y a maintenant le musée des Beaux-Arts. Il se dit, je vais mettre ça là. Après tout, pourquoi pas. Il appelle Emmanuel Héré, qui est donc son architecte, qui est déjà très coté à l'époque, on est en 1752, et on va lancer ces fameux travaux avec donc quatre grands pavillons, un hôtel de ville tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, notez à l'époque que les pavillons ne sont pas complètement construits, c'est-à-dire qu'on impose les façades, mais l'arrière, le propriétaire en fait ce qu'il veut. Donc il y en a qui vont faire un hôtel particulier, je pense notamment au côté hôtel de la Reine, ça a toujours été une maison privée, vous voyez, ou en face, là où vous avez le foie et le commerce. Il va installer l'école de chirurgie au départ, là où est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Donc du coup, on détruit la porte Saint-Nicolas. Et cette porte Saint-Nicolas, on en voit encore les fondations quand on va voir cette salle merveilleuse. Hein.
Oui,
en bas, la collection d'ômes, c'est extraordinaire, il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Donc on rase cette porte Saint-Nicolas et on construit l'évêché là où il y a maintenant le musée des Beaux-Arts. On a donc tous les pouvoirs, hein. On a le pouvoir religieux, il y a le pouvoir administratif, la ville de Nancy est représentée. Et alors il aimerait bien continuer devant les remparts à faire des bâtiments en hauteur aussi. Mais là, un messin intervient, messieurs. Le maréchal de Belle-Île gouverne Metz depuis un petit moment, c'est sa ville préférée. Il est gouverneur des trois évêchés. Et comme vous savez que sous le règne de Stanislas, on prépare l'entrée de la Lorraine dans la France, il est aussi devenu gouverneur militaire de la Lorraine. Et là, il dit à Stanislas, alors là, non. Vous ne bâtissez pas de murs au-dessus des remparts. C'est-à-dire la fin de la vie vieille. On ne sait jamais si on était attaqué, etc. Donc, il va être obligé de faire ce qu'on appelle des basses faces. On les a toujours. On a rajouté les toits après. Vous savez, ces petites lucarnes qui font la rue Errée et le bas de la Plastane. Ça a été rajouté 50 ans plus tard. Et donc, du coup, l'arc Errée, il va le percer dans la muraille. Il n'y avait pas de porte, là. Donc, c'est les architectes de Stanislas qui vont avoir l'idée de faire un arc de triomphe avec le portrait de Louis XV, comment dirais-je, surmonté de la renommée, la déesse de la gloire qui chante la gloire de Louis XV. Et donc, il termine cette place-là, puis il lui reste encore des bouts, on verra ça demain. Il lui reste la place de la Carrière qui existe déjà, il trouve qu'elle n'est pas bon. Il y a un champ de ruines au fond de la place de la Carrière, puisque Léopold voulait, rappelez-vous, construire là son palais. Finalement, il est allé à Lunéville, mais il a quand même détruit les trois quarts du palais de ses ancêtres. Donc là, il y a une espèce de trou avec une espèce de place dont on a un mur sur le côté qui a été construit par Baligan. On en parle beaucoup en ce moment avec les travaux au musée Lorrain. Bien, Stanislas se dit, tiens, je vais faire une place ici, une autre place qui va prolonger la place Stanislas. On en reparle demain.